On en parle.
Frédéric Vollery, Philippe Girard.
La fin de la crise sanitaire semble enfin pointer le bout de son nez.
Mais que restera-t-il des mesures mises en place dans votre entreprise, votre commerce ou votre société ?
On s'adresse aux indépendants, aux PME et aux associations dans le guichet de ce matin, Frédéric.
Réouverture des restaurants, fin de l'obligation du télétravail. À quoi ressemblera votre entreprise après la crise ? Allez-vous conserver le service à l'emporter que vous avez dû mettre en place pendant la fermeture ? Ou une partie du télétravail ? Ou le site internet que vous avez dû ouvrir à la hâte pour vendre vos produits ? Comment développer une présence numérique de votre entreprise pour ne pas être pris de court à la prochaine crise. Combien ça coûte de sécuriser ces outils informatiques ou d'avoir un système de paiement en ligne qui soit sûr? On répond à toutes vos questions sur l'adaptation de votre entreprise, société, petit commerce après la crise.
Vous pouvez donc nous appeler pour poser vos questions, mais aussi pour nous dire comment vous vous êtes adapté, partager vos expériences, pour donner peut-être des idées aux autres. Et ce matin, c'est Mathilde Pelletier qui répondra à vos appels. Bonjour Mathilde.
Bonjour Philippe. Oui, tout à fait. Donc vous pouvez me joindre au 0800 108 208, 0800 108 208, c'est un numéro gratuit, j'attends donc vos appels et si vous ne souhaitez pas passer à l'antenne, nous vous suggérons de privilégier les emails à onenparle@rts.ch.
Mathilde, on vous laisse rejoindre le standard où se trouve aussi Delphine Sage pour recueillir les messages écrits. En régie, c'est Mathias Brunimann qui œuvre ce matin. Derrière les écrans, notre éditrice numérique Sylvie Ravussin. Bonjour et bienvenue au guichet d'On en parle. Et pour nous accompagner durant toute cette heure, deux invités sont avec nous. Aurélie Rosenberg, ingénieure en informatique et fondatrice du cabinet Sirma, spécialisée dans la digitalisation. Bonjour et bienvenue.
Bonjour.
Et à vos côtés, Sébastien Mabillard, coach en entreprise, rattaché à l'entreprise Simark, qui est l'antenne valaisanne de la plateforme intercantonale Platine. Bonjour à vous.
Bonjour.
En deux mots, Sébastien Mabillard, c'est quoi cette plateforme intercantonale ?
Cette plateforme intercantonale, donc Platine, est en fait regroupe tous les cantons romands, donc dits de la Suisse occidentale, pour pouvoir délivrer du service ou du soutien aux PME, plutôt industrielles, on va dire, dans leur défi d'innovation, donc pour se renouveler dans leur modèle d'affaires, dans leur organisation, ou simplement pour valoriser des collaborations inter-entreprises ou bien avec des écoles de recherche. EPFL, HES, etc.
Donc c'est des conseils, vous ne soutenez pas financièrement les entreprises.
Tout à fait, donc nous accompagnons les entrepreneurs, les porteurs de projets dans leurs projets d'innovation. C'est, on va dire indirectement, c'est du soutien financier, mais sous forme de ressources humaines et intellectuelles pour définir ces nouveaux modèles d'innovation pour les entreprises.
De votre côté, Aurélie Rosenberg, alors vous avez donné des formations à de nombreuses entreprises durant toute cette année de Covid. Qu'est-ce que vous avez constaté ? Quelles étaient les demandes des entreprises ou des associations qui ont fait appel à vous ?
Alors, les demandes concernaient déjà ce que pouvaient faire les entreprises en fonction de leurs moyens. Déjà de comprendre ce qu'est le digital, parce que ça ressemble souvent...
On va juste ajuster votre micro, voilà, vous pouvez vous rapprocher.
Donc, voilà, parlez bien en face de votre micro.
Très bien, merci.
Donc, on vous demandait comment vous avez soutenu vos entreprises durant cette année.
Exactement. Donc, en fait, les questions qui nous étaient posées, c'était vraiment de savoir ce qu'elles pouvaient faire en fonction de leurs moyens. Est-ce qu'en fonction de leur budget, qui n'était pas forcément conséquent, elles pouvaient avoir une présence en ligne, effectuer un e-commerce ? Ça, c'était les questions. Comment elles pouvaient avoir une stratégie digitale ? Comment elles pouvaient aussi repenser leurs prestations grâce au digital ? Parce que numériser, c'est une chose, mais le digital permet vraiment aussi d'innover et d'offrir de nouveaux services en ligne. Et c'est ce qu'on a fait avec près de 100 entreprises environ.
Et c'était la plupart du temps, c'était des entreprises qui partaient de rien, qui partaient de zéro, ou bien qui avaient quand même déjà une vitrine, un petit site internet ?
Alors, celles qui nous ont contactées, avec lesquelles on a fait des workshops, de la formation, notamment avec la Faire Genève, hein, parce que donc on propose des formations et des accompagnements avec la Faire Genève, où on a monté des formations spécifiquement.
La Faire Genève qui est
La fédération romande des entreprises
La fédération des entreprises romandes.
C'était des toutes petites entreprises. Alors, ouais. Dans nos activités, on accompagne tout type d'entreprises, hein, surtout de très grandes entreprises, en fait. Et du fait de nos compétences, on a adapté notre savoir pour pouvoir vulgariser et accompagner les toutes petites structures.
Vous avez des exemples, des petites structures que vous avez aidées ?
Oui, par exemple, des photographes. Là, par exemple, avec l'agence Moon Ice à Genève, vraiment une photographe indépendante qui ne pouvait pas forcément recevoir dans ses locaux. Typiquement, des associations avec les marchés Noël qui ne pouvaient plus avoir lieu en présentiel, donc il a fallu les numériser. Des écoles de chant, des spécialistes de sport outdoor, des coachs sportifs, des commerçants. Voilà un petit peu le panel qui était intéressé par nos workshops.
Oui. Alors, numériser, c'est une chose, mais ensuite, il faut faire connaître le site Internet. On sait que les algorithmes de Google, pour ne pas le citer, sont des fois très sélectifs, fonctionnent de façon assez obscure. Donc, d'être sur le web, c'est bien, mais après, il faut promouvoir justement cette présence. Vous offrez aussi un service, vous offrez aussi des conseils pour comment être présent, comment être visible sur Internet.
Oui, tout à fait. Alors, en fait, ce qui fonctionne aussi bien, c'est de mixer, hein. C'est-à-dire, on a du mode digital, mais on a aussi la communication papier, hein, qui reste active. Et puis, effectivement, on accompagne les entreprises sur comment être visible sur Internet, comment bien utiliser les réseaux sociaux, comment créer des événements pertinents, parce qu'il faut du contenu, hein. Le tout n'est pas d'être visible, mais il faut créer du contenu spécifiquement sur qui peut être promu sur grâce aux réseaux digitaux.
Sébastien Mabillard, vous coachez également des petites et moyennes entreprises, des entreprises qui ont été passablement chahutées durant cette année. Qu'est-ce qui les a le plus préoccupées ?
Je dois dire que je vais peut-être résumer ça en trois défis qui ont été peut-être un petit peu définis avec ces différentes petites et moyennes entreprises. Le premier, c'est la relation avec le client. On s'est aperçu que avec la pandémie, tout le monde s'est un petit peu replié chez soi. Il n'y avait plus possibilité d'aller voir ses clients. Donc, on s'est retrouvé à... je suis une force de vente. Je dois aller voir mes clients. Je dois aller prospecter, acquérir de nouveaux clients. Et tout d'un coup, je n'ai plus possibilité ni d'aller dans un salon, dans une foire, ni d'aller peut-être visiter mon client dans l'entreprise. Qu'est-ce que je fais ? Comment est-ce que je mets en place une nouvelle relation avec le client ? Le digital peut être une façon d'y répondre. Il y a peut-être d'autres moyens pour le faire. Donc, premier défi. Le deuxième, il est un peu plus au niveau de l'organisation de ces entreprises. C'est que tout d'un coup, on sait mars 2020, plus aucun avion ne circule. Les bateaux, ça devient très limité. Il n'y a plus de matières premières qui arrivent ici sur le continent européen et en Suisse. Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on est tributaire et dépendant d'une toute une chaîne d'approvisionnement qui est mondialisée ? On se retrouve complètement coincé, on n'arrive plus à produire ce qu'on avait prévu de faire dans nos cahiers de production. Donc là aussi, grand défi, comment est-ce qu'on fait pour soit retrouver des fournisseurs tout proches, donc une localisation en tout cas acceptable et avec des délais aussi acceptables de livraison et bien sûr de la qualité de ces produits. Et puis peut-être réimaginer une nouvelle organisation, peut-être de relocaliser certaines choses, de revoir un petit peu les différents fournisseurs.
Ça a été possible ? Vous avez un exemple ?
Alors ça a été possible. Alors c'est un long travail. On ne peut pas en 6 mois ou 12 mois complètement revoir son organisation et son approvisionnement. Mais il y a des choses qui ont été faites dans l'urgence, notamment dans certaines entreprises pour des pièces détachées, pour revoir complètement les fournisseurs, où est-ce qu'on va aller les chercher. Au lieu d'aller les chercher en Chine, on va peut-être les chercher, je ne sais pas, en Europe de l'Est ou en Allemagne. Et ça, c'est des cahiers des charges qu'on doit mettre aussi en place avec les différents fournisseurs pour vraiment maintenir la qualité du produit final. On travaille beaucoup avec des entreprises industrielles qui, justement, font de l'assemblage parfois de certains éléments. Et il faut pouvoir assurer et la qualité et l'approvisionnement en temps voulu de ces pièces. Et on s'est retrouvé Juste un exemple que tout le monde connaît, vous avez vu que pour obtenir un vélo, ça devient très difficile. Mm-hmm. Et pour même le réparer ou autre, pourquoi ? Parce qu'il manque des pièces. Mm-hmm. Et là, tout d'un coup, on s'aperçoit que la plupart des pièces détachées d'un vélo ne sont pas produites ici en Europe, mais sont plutôt produites en Asie ou ailleurs. Et c'est là qu'on s'aperçoit que la mondialisation a quand même ses limites lorsque tout d'un coup, il y a une crise mondiale qui se profile à l'horizon. Donc voilà, ça c'est pour le deuxième défi. Et le troisième, qui est plutôt positif et réjouissant, on s'est aperçu aussi que certains ou certaines entreprises avaient un défi de croissance parce que tout d'un coup, la crise a fait exploser leur chiffre d'affaires ou leur vente parce qu'ils avaient déjà prévu, ou on ne va pas dire prévu la crise, mais ils avaient déjà des outils digitaux, des sites, des shops déjà en ligne. Et tout d'un coup, l'équilibre entre le physique et le digital a été complètement bouleversé. Donc, ouais, on s'est retrouvé avec des ventes qui ont explosé sur le net. Mais le corollaire, c'est qu'il faut organiser les choses. On ne peut plus organiser de la même manière lorsqu'on est dans un magasin physique ou lorsqu'on est dans un magasin Internet, où les ventes se font 24 heures sur 24, où il faut pouvoir, la logistique derrière, pouvoir mettre dans les paquets, les envoyer, etc. Donc là, c'était aussi un gros défi organisationnel. Et on était aussi appelé à soutenir un petit peu cette réflexion. Comment est-ce qu'on met en place, finalement, une organisation interne pour pouvoir soutenir cette croissance. Donc c'est plutôt réjouissant. Un exemple que j'ai vu dernièrement, c'est un petit, puisqu'ils sont une vingtaine, producteurs de cosmétiques bio, qui avaient déjà un site internet. Et tout d'un coup, l'année 2020, ça a été leur meilleure année en termes de vente. Ils ont eu plus de 35% d'augmentation sur les 9 derniers mois de l'année 2020. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Comment est-ce qu'on organise la production ? Comment est-ce qu'on organise la logistique qui va derrière ? Et comment est-ce qu'on maintient ce chiffre d'affaires ? Parce que finalement, c'est ça, c'est de maintenir cette croissance. D'autres ont perdu, il faut retrouver ou compenser cette perte. Et d'autres ont vraiment augmenté, il faut maintenir ce rythme, je vais dire, de croissance élevé.
Voilà, on parle donc ce matin aux indépendants, aux entrepreneurs, aux petites entreprises, aux petits commerces qui ont traversé cette crise, qui ont dû s'adapter, pour qui ça a été difficile ou parfois plus facile, hein, comme vous le dites, ce troisième défi de croissance qui peut-être certaines entreprises ont vu justement leurs activités se multiplier. Alors si vous vous reconnaissez dans ces modèles, eh bien appelez-nous 0800 108 208 pour partager avec nous vos expériences et puis nous poser aussi toutes vos questions. Nos deux invités sont là pour vous répondre. Donc 0800 108 208 ou par mail, onenparle@rts.ch.
Oui, parce que justement, peut-être que certains ont envie de se digitaliser, ont envie de faire comme cette entreprise que vous venez de citer, Sébastien Mabillard. Du point de vue de la clientèle, elle a dû changer ses habitudes, hein, puisque tout était fermé, en tout cas en mars, avril, mai de l'année dernière. Est-ce qu'elle va revenir à ses vieilles habitudes ou est-ce que les pratiques d'achat en ligne, de click and collect vont perdurer ? Déjà, est-ce qu'on connaît des chiffres, Aurélie Rosenberg ?
Alors, sur le changement des habitudes, nos habitudes, nos comportements de consommateurs, ils ont évolué, ils ont changé. Donc, il y a une partie qui va rester. Mmh. Hein, ça, je pense. Sur les chiffres exacts, il y a eu une augmentation, effectivement, du nombre de ventes en ligne qui a été très important. Il y a des chiffres qui existent de la Fédération du e-commerce et de la vente à distance, la FEVAD notamment, où en 2020, on a plus 32% de la vente en ligne sur les produits. On a une diminution de la vente sur les services, moins 10% en lien avec tout ce qui est en lien avec les services liés au tourisme, hein, qui ont baissé. Et puis, il y a des chiffres aussi d'Eurostat en fait, qui disent que la durée moyenne, c'est 10 ans pour une entreprise qui est absente de l'univers digital. Et c'est des chiffres 2018, hein, donc avant la crise. Donc, ceci veut dire qu'il y a certainement une tendance où les choses vont s'accélérer et où finalement, le défi, le challenge pour les petites entreprises maintenant, ça va être de mixer l'univers physique où les gens ils vont revenir, pour certains commerces, à venir dans les locaux, etc. Et mixer l'univers digital. ce qu'on appelle le figital, hein, si je peux m'exprimer comme ça.
Donc on a vraiment pris le virage du digital. Disons que ça, cette année 2020 a propulsé le phénomène. Quel est le service minimum à avoir en tant que petite PME ou association? Quelle présence digitale on doit avoir aujourd'hui? Sébastien Mabillard.
Je crois que c'est très variable et ça dépend beaucoup des secteurs d'activité. Effectivement, je pense que le balancier du digital ou de la numérisation est parti très loin. Donc, il y a eu vraiment une explosion de ces outils-là. Certainement que le balancier va revenir un petit peu. J'espère juste qu'il va parvenir à sa position initiale et qu'on va pouvoir travailler de manière intermédiaire. Et c'est ce qui a été évoqué tout à l'heure avec ce modèle figital, donc à la fois du physique et à la fois du digital. Après, je trouve que il y a une vraie opportunité de faire évoluer vers ce côté digital. Certes, nos habitudes ont évolué. Je pense qu'on a une consommation qui est plus axée, ou en tout cas, on a un usage un peu plus poussé de ces outils. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a une nouvelle génération qui arrive. Et cette génération, elle est complètement digitale. C'est cette fameuse génération Y, Z, ces millennials qui usent et parfois abusent de ces outils digitaux. Et puis, ça nous a permis, et on l'a vu dans la pratique, en discutant avec les différentes entreprises, c'est qu'on se pose les questions de savoir qui sont vraiment nos clients. Parce que de se poser la question de dire nos clients aujourd'hui, ben ils font une bascule du physique au digital et puis ils vont comme ça un petit peu osciller entre les deux, c'est bien. Mais qui sont nos futurs clients? Comment est-ce qu'ils vont réagir? Et tout d'un coup, certains entrepreneurs se sont rendus compte que il y a des clients qui ne sont absolument pas touchés parce qu'ils ne sont pas présents de manière digitale. Toute cette génération Y, Z, etc., qui finalement ne sont pas sensibles à un flyer ou à une annonce dans un journal, comment est-ce qu'on les touche? Et tout d'un coup, on se dit, tiens, on ouvre une porte vers cette nouvelle génération et ça permet peut-être aussi de rajeunir une clientèle, si on est sur des biens de consommation directe, ou bien de mieux les atteindre parce que les sources d'information pour ces générations sont complètement différentes. J'entendais, je crois que c'était hier ou avant-hier, sur vos ondes, que l'âge moyen des, je vais dire, auditeurs ou spectateurs du tennis avait passé de 51 à 61 ans. Et ça suscitait de graves questions parce que finalement, qu'est-ce qui va se passer si dans 10 ans, l'âge moyen, on est à 71 ans? Il faut peut-être se reposer la question de qui sont nos clients et comment est-ce qu'on fait pour rajeunir un petit peu notre portefeuille de clients. Et je pense que l'outil digital peut le permettre parce que c'est une façon de communiquer qui est vraiment, je ne vais pas dire dans l'air du temps, mais qui est adaptée à ce type de clients que l'on veut encore et toujours toucher.
C'est vrai que cette crise sanitaire nous a fait découvrir le malaise des jeunes, mais aux entreprises, elle a fait aussi découvrir que les jeunes étaient aussi un marché. C'est ce que vous nous dites, hein, les millennials, donc qui d'autres habitudes de consommation. Donc en fait, la crise est une opportunité aussi pour les entreprises finalement.
Alors je pense que j'ai plutôt tendance à voir le verre à moitié plein que le verre à moitié vide, et que de toute crise, on peut tirer des opportunités, et c'est souvent des crises que l'on a. Des nouvelles innovations, de nouveaux modèles qui se mettent en place. Et je pense qu'il faut vraiment en profiter et pas, je vais dire, se morfondre sur ce qui peut nous arriver de négatif, mais trouver ces opportunités-là. Et je pense que, on est là aussi pour donner ces portes ou ces clés de lecture de ces opportunités-là aux entrepreneurs.
Aurélie Rosenberg.
Oui, alors tout à fait. En fait, il y a la réflexion sur les cibles, hein, ce que vient d'évoquer Sébastien. Mais il y a aussi la refonte, la redéfinition de ce qu'on peut faire de nos prestations grâce au digital. Parce que le digital, ça permet d'innover. Donc, on ne vend pas une prestation, un service ou un produit en physique comme on le vend au niveau digital. Typiquement, hein, par exemple, je suis une boulangerie, comment je fais? Enfin, on ne peut plus venir chez moi, dans mon épicerie, etc., dans ma boulangerie. Typiquement, mais pourquoi pas offrir des services, des cours de cuisine en ligne ou des choses, en fait, qui vont pouvoir être accessibles au plus grand nombre grâce à l'univers digital. Donc, il y a une réflexion sur les cibles, comment on atteint ces nouvelles cibles, mais il y a aussi comment on refond nos produits grâce à l'univers et on les diffuse.
Et comment on se diversifie. Voilà, si vous vous reconnaissez, hein, je le répète, peut-être parce que le standard est très très calme, donc profitez-en, appelez-nous au 0800 108 208. Hein. Alors là, vous trouverez tout de suite une voie directe vers Mathilde Pelletier qui répond à vos appels. Vous pouvez aussi nous envoyer un mail à onenparle@rts.ch. Alors je le répète parce que des fois je passe un peu vite sur le numéro de téléphone, 0800 108 208 pour nous raconter comment vous avez modifié votre entreprise, votre commerce, si vous êtes petit indépendant ou indépendante, comment vous êtes adapté à la crise, hein, 0800 108 208 ou onenparle@rts.ch ou même en tant que client, hein, si vous avez modifié vos habitudes à l'égard de tel ou tel commerce, vous pouvez aussi nous le raconter, nous le témoigner à ce guichet.
On en parle. Frédéric Vollery, Philippe Girard.
Et nous sommes toujours en direct avec nos deux invités, Sébastien Mabillard, coach en entreprise rattaché à l'entreprise Simark, antenne valaisanne de la plateforme intercantonale Platine. Rebonjour.
Rebonjour.
Et Aurélie Rosenberg, ingénieure en informatique et fondatrice du cabinet Sirma, spécialisée dans la digitalisation. Bonjour.
Rebonjour.
Et on attend toujours donc vos questions, vos remarques, témoignages, expériences au 0800 108 208, 0800 108 208 ou par courriel à l'adresse onenparle@rts.ch. Et nous avons justement une auditrice en ligne qui nous appelle de Lausanne, c'est Christine. Bonjour Christine.
Oui, bonjour.
Quelle est votre question ?
Alors j'aurais bien aimé que vous parliez de l'aspect de la livraison dans la digitalisation du marché. Parce que en fait pour moi il y a trois aspects qui sont assez dommageables. C'est-à-dire c'est l'impact écologique, l'encombrement des routes et aussi le traitement des livreurs. Quand on voit que c'est marqué livraison gratuite sur ces sites, on voit ces livreurs qui livrent à des horaires incongrus, mm-hmm. et puis qui sont très stressés et on ne sait pas comment ils sont payés. Mm-hmm. Je trouve qu'il faudrait parler de cet aspect de livraison à domicile au niveau de ces aspects. Voilà.
Alors, merci pour cette question, Christine. Alors, effectivement, est-ce qu'on tient compte de ces aspects sociaux, environnementaux, dans la mutation des entreprises, dans la digitalisation notamment, Aurélie Rosenberg ?
Oui, ben merci Christine pour la question. Effectivement, quand un commerce souhaite mettre en place un e-commerce, il y a les aspects de livraison à prendre en compte. Premièrement, sur aussi, je dirais, l'offre qu'on dispense aux clients avec une part aussi de coûts liés à cette livraison. Et puis, ça n'empêche pas, et au contraire, je dirais, il y a une grande réflexion à avoir sur les valeurs qu'on veut véhiculer quand on digitalise. Donc, comment avoir un leadership responsable, typiquement. Et puis, concernant le type de livraison, il y a différents modes de livraison qui existent en fonction du type de transport qui sont utilisés. Et il y a aussi des plateformes locales qui permettent ce qu'on appelle des places de marché, des marketplaces, où effectivement il y a ces aspects peut-être qui sont plus contrôlés, je dirais, que si on passe sur des plateformes qui sont en dehors de l'espace suisse en matière de droit. Donc oui, moi je pense que effectivement, typiquement, moi, j'ai en tête, par exemple, Genève Avenue, où là, il y a des plateformes qui sont organisées et puis où ces aspects sont pris en compte, je pense.
Donc, c'est possible de choisir un mode de livraison en fonction de ses valeurs, par exemple, qui respectent des conditions sociales, environnementales, par exemple.
Tout à fait, tout à fait.
Oui, et puis d'ailleurs, sur l'aspect écologique, il faut peut-être aussi se méfier des idées reçues. Hein, le fait que justement, on livre à domicile certains produits. Une camionnette qui livre à domicile 10 consommatrices ou consommateurs, ça peut remplacer avantageusement, du point de vue environnemental, 10 personnes qui se déplacent en voiture dans un commerce pour aller acheter leurs produits.
Par exemple, il faudrait faire le bilan détaillé, mais oui, tout à fait.
Il me semble qu'on l'avait fait, sauf erreur,
on l'avait fait,
pour
justement.
En parle.
C'est pour ça,
ouais, voilà, avec l'entreprise Qantis,
c'est pour ça. Voilà, c'est pour ça que je me permets de relever la chose. Sébastien Mabillard.
Oui, je voulais juste rajouter que durant cette crise, on a vu apparaître de nouvelles plateformes. Je veux dire, pour concurrencer un petit peu ces grandes plateformes qu'on a l'habitude de voir dans les grandes villes, venant d'une région, périphérique à ces grandes villes, on a vu apparaître ce type de plateformes qui, en fait, sont, indirectement à l'initiative des petits commerçants qui se sont un petit peu regroupés, et plutôt que d'aller chacun avec leur petite camionnette, scooter, aller livrer chez leurs clients, ils se sont regroupés pour faire une plateforme commune, mutualisée, pour pouvoir livrer. Donc là, on rejoint peut-être ce souci écologique, parce que finalement, on mutualise. Oui. Et cet aspect, je vais dire, de durabilité, d'écologie, je pense que elle n'est pas que de la responsabilité du client, mais elle doit aussi être au niveau de l'entreprise. En fait, c'est un travail en commun pour pouvoir mettre ces valeurs au centre des préoccupations. Et ces plateformes, pour moi, elles font clairement du sens là-dedans. Concernant les traitements des livreurs ou autres, après, effectivement, c'est les valeurs de la plateforme qui vont être mises en place. J'estime que le code du travail, ou en tout cas ce qui est en place en Suisse, fixe un cadre. Après, c'est les valeurs de l'entreprise ou de la plateforme qui doivent être véhiculées, et pas que les plats et autres objets. Mais c'est nous aussi, en tant que clients, de défendre aussi ces valeurs et peut-être de ne pas utiliser certaines plateformes qui ne rejoignent pas nos valeurs de durabilité, d'écologie ou bien d'éthique là-derrière.
Mmh. Oui, donc de digitaliser, c'est vraiment... ça prend du temps. Il faut dédier quel pourcentage ou je ne sais pas, quel équivalent plein temps pour une PME, pour si on veut faire les choses correctement jusqu'au bout. Vous avez un ordre d'idée?
C'est très difficile de donner un chiffre fixe, clé. Je sais que je vais décevoir peut-être certains, mais ça prend plus de temps que ce qu'on imagine, oui, de pouvoir mettre en place des outils digitaux. Après, ça dépend aussi quel type d'outils digitaux. Est-ce que c'est un shop en ligne? Est-ce que c'est simplement une vitrine? Est-ce qu'on travaille avec des réseaux sociaux? Est-ce qu'on travaille avec une plateforme dédiée de services qui est complémentaire finalement à notre activité? Donc, chaque cas de figure est différent, chaque modèle est aussi différent et va nécessiter aussi des ressources en temps, en argent, en ressources organisationnelles et humaines aussi différentes.
Et ça demande aussi des compétences spécifiques. Là, vous parlez de réseaux sociaux, par exemple, Sébastien Mabillard. Est-ce que vous intégrez cela aussi, Aurélie Rosenberg, dans la digitalisation, la numérisation de certaines entreprises, de former, est-ce que vous intégrez la formation, finalement, des patrons, des indépendantes et indépendants, dans, justement, la gestion des réseaux sociaux, de comment communiquer aussi sur son entreprise? Parce que devenir community manager comme ça, du jour au lendemain, c'est pas si évident.
Je dirais que c'est la première étape et c'est souvent ce qu'on nous demande, c'est de pouvoir vulgariser en fait tout cet aspect digital que les gens peuvent s'approprier, mais qui est difficile comme ça d'entrer, qui peut un petit peu...
Ça fait peur, c'est souvent des mots en anglais qu'on ne maîtrise pas forcément.
Exactement. Alors, y a des nouveaux modèles aussi qu'on peut utiliser. Et puis, je pense aussi qu'on peut commencer avec des petits moyens. Typiquement, il y a beaucoup d'offres, ce qu'on appelle le freemium. Hein. Je suis navrée, je vais encore faire des anglicismes et utiliser des mots pas très simples. mais c'est vrai qu'il existe des plateformes où on peut faire du commerce. C'est quoi du freemium? C'est une proposition gratuite qui permet l'accès à une offre constituée de fonctionnalités élémentaires. Donc, il y a des plateformes où vous pouvez créer votre e-commerce gratuitement, voir si ça fonctionne pour les tout petits commerçants, hein, je parle, avec quelques produits, pas forcément tous vos produits. Regardez comment ça fonctionne et en fonction de si cela est gérable pour vous, d'augmenter l'offre que vous allez pouvoir mettre en ligne. Donc, par exemple, il y a MyCommerce. Alors moi, j'ai aucun lien avec ces entreprises, mais on a testé ça aussi hein, pour voir ce qui pouvait être utilisé. Où là, il y a des modèles freemium où les gens peuvent commencer à créer un commerce en ligne gratuitement. Ce qui compte aussi, en premier lieu, c'est aussi d'avoir une présence, tout simplement, d'avoir une page web. Donc ça aussi, c'est important. Il faut commencer par ce genre de choses.
Mais même si on commence avec juste quelques articles sur une de ces plateformes dont vous venez parler, il y a aussi tout l'aspect service après-vente, conditions générales, protection des données des clients. Ça, on peut pas. Des fois, on peut pas faire copier-coller. Et puis, on l'a déjà vu, hein, un copier-coller des conditions générales, ouais, qui sont parfois même pas propres à notre législation et à notre pays. Là, il faut être attentif.
On peut pas s'improviser juriste comme ça.
Alors, faut être très attentif sur ces aspects légaux et de conditions générales de vente, de conditions générales de livraison.
Donc en Suisse, il n'y a pas de loi spécifique au e-commerce. Ça, c'est important de le savoir. Par contre, pour chaque petite entreprise qui souhaite se lancer, il faut faire des conditions générales de vente et de livraison. Mmh. Et puis, il y a tout ce qu'on appelle la politique de confidentialité, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait des données qu'on collecte, oui, des données personnelles et des données personnelles sensibles. Donc pour cela, en fait, il faut dire voilà ce qui est recensé, où est-ce qu'elles sont hébergées. Qu'est-ce qui en est fait de ces données, et puis les modes de conservation, les modalités, les finalités de traitement et s'il y a des tiers. Pour ça, il vaut mieux quand même se faire accompagner. Vous gagnerez du temps et surtout en e-réputation, hein, parce que ça, c'est votre réputation qui est en jeu.
Oui. En vous entendant, Aurélie Rosenberg, je remarque que finalement, c'est pas si facile que ça que d'être sur le web. Hein. Il y a tellement de dimensions à penser. Mm-hmm. On parlait justement de l'aspect écologique et social tout à l'heure avec Christine. Là, vous parlez justement des aspects juridiques, protection des données, de toutes ces conditions générales, des droits des consommatrices et consommateurs. C'est un énorme boulot. Donc ça, vous êtes là pour accompagner.
Exactement.
Aussi
En fait, ça demande surtout de la formation. Ouais. C'est de la formation sur des éléments de base, des éléments clés qu'il ne faut pas rater. En fait, il n'y a pas beaucoup de choses pour commencer, mais il y a certains éléments clés comme la protection des données, comme les conditions générales de vente, comme comment être présent en ligne, comment adresser un message sur un réseau social sur lesquels on ne peut pas passer à côté.
Oui, donc vous disiez, on peut essayer avec une de ces plateformes, c'est à double tranchant, parce que si c'est pas sérieux après,
on prend
un mauvais départ.
Les outils, en fait, concernant les outils, il y a des choses qui sont accessibles pour tous les prix, c'est ça que je veux dire. Par contre, sur la formation, je pense que ça vaut la peine pour les entreprises de se former à cette nouvelle ère qui est l'ère digitale. Et pour ça, typiquement, il y a des formations qu'on fait ou via l'affaire Genève et certainement d'autres choses qui sont possibles.
Sébastien Mabillard, vous voulez réagir ?
Oui, je voulais simplement dire que finalement, on ne s'improvise pas apprenti community manager, effectivement. Je pense qu'il faut se faire accompagner, déjà pour se poser les bonnes questions. Qui sont nos clients ? Qu'est-ce que finalement on veut amener via cet outil digital si on veut l'utiliser à bon escient ? Quels sont les bons outils ? Est-ce que c'est un site web, un shop ? Est-ce que ce sont les réseaux sociaux, etc. ? Donc ça, c'est les premières choses. Et ensuite, c'est dans la réalisation et la mise en œuvre de ces outils. Là aussi, il y a des professionnels, des experts de ces domaines-là, en termes de marketing, en termes de communication, pour mettre en place tous ces outils-là. Donc, le bricolage en bout de ficelle parce qu'on veut économiser 2 francs 6 sous, je ne suis pas sûr que ce soit la bonne méthode. Et finalement, on se tire une balle dans le pied parce qu'on n'atteint pas notre cible, on n'aura pas les résultats escomptés. Donc, des fois, il vaut mieux prendre le temps de bien réfléchir, de poser ce modèle. Peut-être juste des éléments un peu de base si on veut faire un site, je vais dire Internet, et être présent sur la toile. Pour moi, la première chose, c'est de savoir à qui est-ce qu'on veut s'adresser. Et pour avoir le bon message. Ça ne sert à rien d'avoir un message, je vais dire, à la grand-papa si on veut s'adresser à des jeunes pour leur vendre des baskets ou des t-shirts. La deuxième chose, c'est l'ergonomie. On est aujourd'hui habitué que, on dit c'est la règle des 3 clics. C'est-à-dire, en 3 clics, je dois avoir fait mon opération sur le site. Si vous commencez à en avoir plus que 3, donc 5, 10... Là, ça devient tortueux et les gens vont quitter. Mmh. Donc ça, pour moi, c'est aussi très, très important. N'oubliez pas que nous sommes dans un pays multilingue. Et souvent, on oublie qu'il n'y a pas que le français, il y a l'allemand, il y a l'italien, il y a parfois l'anglais. Et alors, des fois, la facilité, c'est de dire on fait tout en anglais, comme ça, on est tranquille. Mais si on s'adresse à une génération qui ne parle peut-être pas ou maîtrise pas l'anglais, ça devient compliqué. Donc, bien réfléchir. Et puis, ça a été évoqué tout à l'heure, le service après-vente. Lorsque je vends quelque chose sur Internet, formidable, je vais augmenter mon chiffre d'affaires, etc. Mais qu'est-ce qui se passe si tout d'un coup, la pointure de chaussure ou la taille du t-shirt n'est pas la bonne ? J'ai un renvoi, qu'est-ce qui se passe ? Je vais téléphoner, à qui est-ce que je téléphone ? Quel est le numéro que je mets en place ? Est-ce que j'y réponds 24 heures sur 24 ? Si je reçois un colis, comment ça se passe ? La logistique chez moi. Donc, je dois aussi réfléchir à cette organisation en interne. On parlait de mots en anglais, donc je vais y aller aussi de mon mot, le chatbot, ce micro-blogging, donc cette conversation qu'on peut mettre de façon automatisée sur un site qui, qui permet de répondre à des questions, parce qu'on sait que les questions sont souvent un peu les mêmes.
Oui.
C'est la petite fenêtre qui arrive quand on est sur un site et qui nous dit « puis-je vous aider ?»
Voilà. Voilà. En langage d'initié, c'est le pop-up qui s'ouvre.
Oui.
Donc cette petite fenêtre, effectivement, qui s'ouvre. Comment est-ce que je mets en place tout ça? Alors, il y a des outils pour le faire, mais il faut le faire aussi de manière intuitive, un petit peu intelligente et qui répond vraiment à ce type de questions. Donc, il y a plein de questions. Le seul conseil, ne vous improvisez pas community manager en disant « oui, je vais faire moi-même mon site ».
Je peux faire ça tout seul, c'est simple.
Oui, je pense que le mieux, c'est d'être accompagné dans ces questionnements, dans la mise en œuvre, et puis vraiment de pouvoir amener tout ça de façon simple à ses clients.
Sébastien Mabillard, vous avez parlé des trois clics. Aurélie Rosenberg, vous avez un exemple. Il y avait beaucoup trop de clics, la vente ne marchait pas.
Bah, typiquement, sur une école de chant, effectivement, qu'on a accompagnée, où pour accéder aux prestations, il y avait beaucoup trop de clics. Donc, effectivement, ça, c'est un détail, mais il faut rendre accessible l'offre et la simplifier quand on digitalise, en fait. Ça, c'est les deux messages. Rendre accessible de manière rapide et simplifier l'offre qu'on met en ligne. Voilà. C'est un petit peu ça. Donc, c'est vraiment, moi, je pondère un petit peu ce qu'a dit Sébastien. C'est-à-dire que c'est quand même accessible pour tout le monde, pour que les entreprises puissent se digitaliser. Il y a les points clés qu'il ne faut pas rater pour permettre. Donc, il y a des formations qui existent, etc. Mais ce n'est pas inaccessible non plus. Enfin, je veux dire.
Il ne faut pas décourager non plus les gens.
Non, c'est ça. On peut commencer de manière simple.
Voilà, et puis on a en plus le temps de le faire hein, maintenant que la crise commence à toucher à sa fin, en tout cas on croise les doigts, hein. Tandis que là, quand la crise du Covid est apparue, on a dû tous s'adapter très très vite, et du coup maintenant qu'on a le temps de le faire, autant le faire bien en pensant à toutes les dimensions. Sébastien Mabillard, vous vouliez rajouter quelque chose?
Oui, mon intention n'était pas de dire c'est que pour des initiés de pouvoir mettre en place tout ça. Effectivement, c'est accessible, mais il faut suivre quelques règles de base, et puis d'une fois qu'on a maîtrisé ces règles de base, il n'y a pas de problème, on peut le faire.
9h22 sur la première, le guichet dont on en parle est ouvert. Alors, il est très calme hein, aujourd'hui. On ne sait pas si c'est la fête de Dieu dans les cantons de Fribourg et du Valais qui fait que, ma foi, les gens restent au lit ou bien vont en balade plutôt que d'écouter On en parle. Mais enfin, en tout cas, vous pouvez encore nous appeler. Vous avez encore juste quelques minutes pour le faire. On parle donc de la relance des entreprises après la crise du Covid. Juste quelques mots sur le télétravail, parce qu'on est beaucoup à voir télétravailler durant cette année. Hein. Si, dans son entreprise, on veut quand même garder une partie du télétravail, il y a quand même des outils qu'on doit utiliser. Est-ce que ça aussi, ça implique justement une sécurisation, des outils adaptés, plutôt que de prendre le premier logiciel venu, Aurélie Rosenberg?
Oui, alors tout à fait. Il y a des précautions à avoir en matière de sécurité de l'information, tant sur les moyens de communication, les outils de visioconférence, tant sur les aspects de partage et de stockage, puis aussi donner les bonnes pratiques quand on est à la maison sur qu'est-ce qu'on fait de données et comment on les conserve en local chez nous. Donc, je pense qu'en tout cas, c'est une tendance qui va durer dans le temps, parce que à la fois, on est très content de revoir nos collègues et à la fois, on a pris aussi pour la plupart un peu de plaisir aussi de pouvoir adapter notre mode de vie en fonction de nos modes de travail, de pouvoir combiner les deux. Donc, pour cela, effectivement, il y a le CLUSIS. Si les personnes souhaitent avoir plus d'informations, qui est le club en fait de sécurité de l'information, qui pourrait donner toutes les bonnes recommandations en matière de télétravail.
Sébastien Mabillard, est-ce que ça entre aussi dans les conseils que vous donnez en tant que coach d'entreprise sur quelles sont les bonnes pratiques aussi au niveau du rapport rapport hiérarchique entre les employés et les cadres, sur par exemple ne pas fliquer peut-être trop les employés chez eux? Quels conseils vous donnez aux entreprises qui veulent conserver une partie de télétravail?
Alors c'est très variable, parce que finalement, nous adressons plutôt, comme je l'ai dit tout à l'heure, à des PME plutôt industrielles. Donc il y a des cas où le télétravail est tout simplement pas possible. Lorsqu'on fait une chaîne de production dans un atelier mécanique, c'est pas imaginable de faire du télétravail. Puis il y en a d'autres où on peut imaginer ce type de télétravail. Et là, effectivement, il faut pouvoir être très clair et très transparent par rapport à ses employés, pour mettre un cadre qui permette justement une certaine sécurité, une transparence dans la façon de travailler. Et certainement qu'on va arriver à des modèles hybrides où on aura à la fois du présentiel en bureau et du digital donc à la maison. Et puis, reste encore quand même quelques questions ouvertes sur le contexte au niveau du domicile. Aujourd'hui, il y a passablement d'outils qui permettent justement de gérer ces aspects lorsqu'on parlait de données. On a des entreprises qui ont déjà mis en place des clouds, je suis désolé, je vais encore refaire de l'anglicisme, donc où on va stocker toutes ces données dans les nuages, comme on dit, mm-hmm. et puis pour pouvoir donner des accès sécurisés à ses employés pour pouvoir travailler et non pas avoir les données sur les outils propres, donc sur les ordinateurs des employés, où là, on ferait vraiment courir un risque à l'entreprise. Donc voilà, donc ça, c'est des modèles qui sont en train de se mettre en place. Et quand on parle de flicage ou autre, nous, on est en train de voir plutôt émerger des modèles du type holacratie, donc c'est-à-dire où on a des hiérarchies complètement plates, mm-hmm. où chacun finalement s'autonomise et devient, je veux dire, plus ou moins son propre patron, avec des valeurs communes et une mission commune. Et c'est un petit peu là-dessus qu'on travaille en type d'organisation.
Aurélie Rosenberg.
Oui, juste pour dire qu'en fait, la transformation digitale, c'est le rôle aussi des conseils d'administration hein, pour les plus grandes entreprises. Donc là, je pense que ça renforce encore avec ce qui vient de venir avec la pandémie, le fait qu'on doit penser à la réorganisation et donc aussi à la transformation. Et pour cela, il y a aussi, par exemple, le cercle suisse des administratrices où il y a des gens compétents qui peuvent aussi accompagner les entreprises. Voilà.
Voilà, on en avait deux avec nous ce matin. Aurélie Rosenberg, ingénieure en informatique et fondatrice du cabinet Sirma, spécialisée dans la digitalisation.
Et Sébastien Mabillard, coach en entreprise rattaché à l'entreprise Simarc, antenne valaisanne de la plateforme intercantonale Platine.
Voilà, merci beaucoup à tous les deux d'avoir répondu à nos questions. C'était plus à nos questions qu'aux questions des auditrices et auditeurs. On en a eu très très peu aujourd'hui, mais voilà, des fois c'est comme ça, ça arrive. Hein. Le guichet est ouvert de toute façon. Merci d'avoir répondu donc à l'invitation de Bastien Fondvis. On vous souhaite une excellente journée à tous les deux.
Merci. Belle journée, merci.
Belle journée.
Et en régie ce matin, Mathias Brunimann, Mathilde Pelletier et Delphine Sage au standard, Sylvie Ravussin au multimédia et Frédéric Volery à mes côtés pour animer ce guichet.
On en parle, Philippe Girard.
Le guichet de la semaine prochaine sera consacré au gaspillage vestimentaire. L'industrie textile est la deuxième plus polluante de la planète après celle du pétrole. De quoi nous interroger sur nos habits, hein, comment les choisir, où et comment les acheter, les faire durer, leur donner une seconde vie. Vous pourrez poser vos questions ou échanger vos idées par mail à onenparle@rts.ch. Dans l'immédiat, Frédéric, c'est Chacun pour tous.
Avec Jean-Marc Richard, puis les chemins de traverse de Duja, dans Gare à vous, Duja qui vous attend justement au Val de Travers.
Et pour ma part, je vous retrouve demain dans le deuxième service. Frédéric, vous serez là aussi hein, pour nous parler du dossier électronique du patient.
Exact, ouais. Le fameux dossier électronique du patient et ses nouveaux développements. Cette semaine, ce sera avec Jérôme Zimmermann à la présentation de l'émission.
Et bonne journée et à demain.
On en parle, de l'utile, du pratique, tous les jours.